إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي الكرام suite aux nombreuses questions concernant les troubles actuels que traverse la communauté salafia ainsi que les questions concernant les préceptes sur la science de la critique et l'éloge ou sur les agissements illégitimes et perturbants de nombreux sur les réseaux sociaux, ne menant qu'au manque de comportement à l'égard de nos savants, d'attitude les uns envers les autres, la confusion, l'incompréhension, le fanatisme, la scission et la division, ainsi que les questions concernant leurs propos fallacieux et leurs agissements erronés, lorsqu'ils isolent, mettent en garde et ne cesse de taxer de moumayyir, c'est-à-dire de laxiste, ou encore de haddadi, ou encore tout autre qualificatif qu'ils utilisent pour qualifier ceux qui ne se conforment pas au même positionnement et avis qu'eux. Et tout ceci sans aucune argumentation, consultation et ou encore même avoir été devancé par un seul des savants qu'ils prétendent défendre et suivre. De ce fait, comme je vous l'avais annoncé, j'ai décidé de faire une série mensuelle abordant tous ces sujets, les uns après les autres, sous forme d'intervention, espérant ainsi apporter une réponse à ces nombreuses interrogations, une correction à tout cela et un éclaircissement sur le comportement et la méthodologie salafie à adopter face à ces situations, afin de se positionner correctement et respecter le statut et l'honneur de tous nos savants salafis que nous aimons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer cette série par une intervention intitulé « La désertion des problèmes méthodologiques entre vérité et fausseté ». C'est-à-dire l'ambiguïté que nous cessons d'entendre lorsque l'on évoque le sujet de la critique et l'éloge. Nombreuses personnes sont celles qui vont dire « Ceci n'est pas à ma portée » ou « Délaisse ceci et occupe-toi de la croyance » ou encore « ça c'est pour les savants » ou encore « qui es-tu pour comprendre cela et te positionner correctement » ou encore ceux qui vont dire « les preuves sont claires » ou encore ceux qui vont évoquer la règle de critique et de l'éloge disant que la critique détaillée prévaut sur l'éloge général et encore d'autres paroles que nous entendons sans cesse lorsque nous voyons donc ce sujet-là. Il faut savoir donc, comme le titre le mentionne, que ce positionnement, c'est entre vérité et fausseté. Il y a une parole de vérité en cela, mais il y a aussi une part de faux dans cette parole, comme je vais l'exposer dans cette intervention. Donc nul doute que les événements vécus par les gens de la Sunna actuellement sont des événements durs. Nous ne parlons pas du problème de l'étrangeté, c'est-à-dire al-ghurba, ou encore de la vulnérabilité, ou du manque de renforcement, ou de la domination des gens de l'innovation. Nous voyons aujourd'hui que les gens de l'innovation sont nombreux comparés aux gens de la Sunna. Mais avec grand regret, nous parlons aujourd'hui d'une faiblesse présente chez les gens de la Sunna eux-mêmes et d'un fléau présent chez les gens de la Sunna eux-mêmes. Nul doute que nous endurons de nombreux problèmes et de nombreux troubles, plus particulièrement dans le sujet de la critique et l'éloge et le fait qu'une personne qui faisait partie des gens de la Sunna se voit critiquée par la suite et des mises en garde sont faites à son encontre. Ce sont des problèmes dont nous pâtissons tous. Mais ces sujets-là, ce sont des sujets que nous prendrons soin d'analyser et de faire l'examen le plus rapidement possible, car ce sont des sujets importants. Malheureusement, ce n'est pas ces sujets-là que nous allons traiter aujourd'hui dans cette allocution. Le sujet à propos duquel nous souhaitons parler maintenant est comment se comporter avec ces événements. C'est-à-dire, comment doivent agir ceux qui sont associés à la prêche principalement, les du'at, les prédicateurs à Allah, ceux qui s'adonnent à l'éducation, les enseignants et autres. Comment doivent-ils se comporter face à ces événements? Il y a un cheminement, une méthodologie sur laquelle je souhaite alerter, qui est un cheminement répandu et commandé clairement ou furtivement par certains. Certains le disent clairement, sans se cacher, et d'autres le font avec malice et avec sous-entendu, ou encore même, ce sont leurs actes qui démontrent furtivement cette méthodologie. C'est-à-dire que certains proclament cela clairement, et certains autres ont une façon d'agir qui montre cela clairement aussi. Peut-être que certains frères trouveront dans cette façon d'agir une solution et un échappatoire à ce sujet. Lorsque chaque jour, ils voient des problèmes et des troubles, ils vont trouver en cela un échappatoire. Cette façon d'agir, elle consiste à quoi, oh mes frères? Elle consiste à déserter, c'est-à-dire de délaisser complètement la critique et l'éloge. Ne pas parler de ce sujet. Ne pas parler sur les gens, car c'est un sujet de trouble, un sujet de problème et un sujet grave. Certes, il n'y a aucun doute à ce sujet, que ce soit un sujet de trouble, un sujet de problème et un sujet grave. Mais comment devons-nous traiter cela? Ces gens-là, ils disent, nous délaissons ce sujet complètement. Nous ne parlons sur personne et que chacun dise ce qu'il souhaite. La tendance, actuellement, elle est ainsi. Même si, bien sûr, personne ne peut le proclamer clairement de cette façon. Mais ils le font avec des sous-entendus. Ou alors, c'est leurs actes qui parlent pour eux. Car si nous laissons chaque personne dire ce qu'elle souhaite, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala périrait. Mais comme je vous ai dit, leur agissement démontre ceci clairement, que nous devons délaisser complètement le chapitre de la critique et de l'éloge. Il y en a même parmi eux qui dénigrent clairement ce sujet, ainsi que quiconque s'en préoccupe, l'examine ou s'y adonnent et parlent sur un tel ou un tel. On voit malheureusement dans la communauté actuellement que dès qu'une personne corrige quelqu'un sur son affiliation à une personne mise en garde, la solution va être de s'écarter de cette personne. Ou alors, de tomber complètement dans l'exagération et de faire ce qu'elle reproche à autrui, c'est-à-dire de mettre en garde elle-même contre cette personne qui la prévient des erreurs de tel et tel prédicateur ou de telle et telle personne affiliée à la science. Ils dénigrent cela clairement et disent que ce n'est pas le cheminement des savants. Certains aujourd'hui nous disent « Oui, mais regardez, le noble Cheikh Rabi', hafidhullah ta'ala, il a patienté tant et tant d'années avec un tel, et tant d'années avec un tel. » Donc, ils évoquent ce genre de choses pour trouver un échappatoire et dire « Regardez, telle personne n'a pas été conseillée le même nombre d'années. » Mais qui a conditionné ce nombre d'années ? D'ailleurs, ce n'est pas une condition, car on voit dans la méthodologie du noble Cheikh Rabi', hafidhullah ta'ala, qu'il n'a pas patienté le même nombre d'années avec tous les individus. Donc, comment peux-tu prétendre que ce n'est pas le cheminement de nos savants ? D'ailleurs, ici, la majorité ne s'arrête qu'à un seul savant de notre communauté, en ignorant tous les autres savants qui s'expriment sur cette science complexe, qui même si parmi nos anciens savants, ils étaient peu, et il reste peu encore à notre ère, ça n'empêche qu'il y en a quelques-uns qui s'expriment sur ce sujet, et que cette science n'est pas limitée à un seul savant. Donc, comment peux-tu réduire, hein, celui qui prétend cette ambiguïté, comment peux-tu réduire le cheminement des savants à la méthodologie du noble Cheikh Rabi'? Cheikh Rabi' a pu s'exprimer sur certains individus dont d'autres savants qui s'expriment dans cette science ne se sont pas exprimés. Comme ces autres savants qui s'expriment dans la science de la critique et l'éloge se sont exprimés sur des individus sur lesquels Cheikh Rabi' ne s'est pas exprimé. Et ceci n'est pas un dénigrement ou un manque de science de la part de l'un ou l'autre de nos savants. Pas du tout. C'est que le savant, des fois, il a des préoccupations ou des priorités, ou des fois, il ne connaît pas par rapport à sa proximité, par rapport au pays, par rapport à d'autres choses, à d'autres paramètres, il ne connaît pas le cas et l'état de cet individu. Donc, il ne se prononce pas pour être juste et ne pas s'exprimer sans science. Donc la critique et l'éloge ne se limitent pas à un shir. Et la méthodologie ne se limite pas à un shir non plus. Il faut étudier cette science complètement pour pouvoir prétendre que c'est le cheminement de nos savants ou non. Et ce n'est pas ce genre d'exemples qui vont apporter la solution au problème. Donc cette parole, ô mes frères, c'est une parole fausse. Peu importe qui est-ce qui la dira ? Peu importe cette personne. Toute personne qui dira cette parole-là, par Allah, que c'est une parole fausse. Et peu importe qui sont les personnes qui l'appliqueront. Cette parole, elle est fausse. Ce n'est pas le bon cheminement pour traiter ce sujet. Parce que nous disons franchement que cette parole est clairement et indiscutablement fondée sur la raison. Elle n'est pas fondée sur l'argumentation du Coran, de la Sunna authentique, du consensus, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ce n'est pas parce qu'une chose est une vérité en soi, qui fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, que cette chose est vraie. Car malheureusement, des fois, elle est mal comprise, ou elle est mal mise en pratique, mal appliquée. Donc, est-ce que la façon d'agir est de délaisser ce sujet complètement? La réponse est clairement non. Comme je vais vous donner des exemples pour argumenter cette réponse. Par exemple, si nous avons une personne qui étudie la science religieuse, le fait d'étudier la science religieuse, ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute sur le fait que cela fasse partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre. C'est une obligation pour chaque musulman d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au cours de ses études, la personne, elle va voir son intention se pervertir. Au début, elle étudiait pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, seule sans associé, en espérant sa récompense, en craignant son châtiment. Mais au fur et à mesure qu'elle a étudié, qu'elle s'est fait connaître, son intention s'est pervertie et elle a commencé à se transformer pour maintenant avoir l'estime et la reconnaissance des gens. Donc, est-ce que cette personne qui maintenant étudie avec un mauvais cheminement, puisqu'elle n'étudie plus pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui dire: arrête totalement d'étudier, ou bien alors on va lui dire corrige ton intention, comme les salafs nous l'ont dit à travers de nombreuses paroles. Il faut sans cesse renouveler et corriger son intention dans l'étude de la science. Ou encore d'autres salafs qui nous ont dit qu'au début, ils étudiaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une autre raison que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas réussi. Et lorsqu'ils ont transformé leur intention pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, là ils ont trouvé la réussite. Donc, est-ce qu'on va dire que la solution dans cette chose-là est de totalement délaisser l'étude de la science, que ce soit pour cette personne ou de manière générale, puisqu'on voit qu'il y a des personnes perverties? Donc on va prendre ce moyen pour corriger cette erreur, ou alors on va leur dire non, il faut persister dans l'étude de la science, et ces personnes qui ont une intention pervertie ou un mauvais cheminement de manière générale, il faut qu'ils corrigent ces erreurs. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous allons leur dire de corriger ces erreurs et non pas d'arrêter d'étudier, même si ceci devient de plus en plus fréquent et se généralise. Car malheureusement, c'est un des fléaux de notre ère dont se plaint de plus en plus les savants. Le fait que les étudiants en sciences, ou alors ceux qui s'adonnent à l'étude de la science, ou alors ceux qui assistent aux assises de science, soient de plus en plus pervertis dans leur intention, de plus en plus manquent d'attitude et de comportement, et ainsi de suite. C'est une chose dont se plaint de plus en plus, malheureusement, nos savants. Et malgré ceci, les assises de science persistent. Et je profite de ce moment, donc, comme je vous ai dit, pour dire que l'un des nombreux problèmes que nous vivons, l'absence de méthodologie, l'absence de comportement, ce sont des choses évidentes, réelles et claires que nous constatons tous. Aujourd'hui, nous constatons tous, malheureusement, que de nombreuses personnes ont en absence de comportement, même si, pour certains, ils sont surnommés prédicateurs ou étudiants en sciences. On voit qu'il y a un manque de méthodologie, un manque de comportement. Et ça, c'est réel et clair. Mais est-ce que la solution est de fermer les portes de l'enseignement? De mettre terme aux assises de sciences? D'interdire d'enseigner à ces gens et de tenir les assises de sciences, de leur interdire de tenir les assises de sciences? Au contraire, nous disons qu'il faut plutôt continuer de former des étudiants en sciences, de les préparer et de les suivre. Peu importe à quel point les cœurs sont corrompus et peu importe que ceci se généralise. Parce que d'arrêter d'enseigner totalement est bien pire et encore beaucoup plus grave. Les gens vont se retrouver dans une ignorance totale. Par exemple, si un savant forme 10 élèves et qu'il n'en ressorte qu'un seul, Alhamdulillah. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Comme on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un jour où un prophète, le jour de la résurrection, ne sera accompagné que d'une ou deux personnes. Et il viendra un prophète sans avoir personne avec lui. Mais de dire, comme le font certains, qu'il faut mettre terme à tout cela, qu'on ne recommande personne, car nous ne connaissons pas les gens, et les troubles sont nombreux, ceci est une erreur. Et ceci est faux. Et s'il persiste dans cela, ça mènera à la disparition de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa permission. Donc ceci est une erreur. Si le sujet en lui-même est vrai, mais qu'il y a un problème dans la mise en pratique ou la compréhension, il ne fait pas partie de la raison, ni de la sagesse, ni même de la religion d'y mettre terme complètement. Un autre exemple encore plus précis et en lien avec le sujet que nous traitons maintenant, qui est la réfutation des détracteurs, le fait de faire des mises en garde, le fait de corriger des erreurs. Est-ce que ceci, ça fait partie de la religion? Nul doute que ça en fait partie. C'est même une base des fondements de l'islam, comme en attestent les textes du Coran et la sunna authentique. Mais si un tel réfute autrui injustement, en mentant sur cette personne, ou alors que celui qui réfute un détracteur, il le fait avec une mauvaise intention, car il ne le fait que pour se faire connaître et ou rabaisser les gens. Nous ne disons pas de mettre terme à la réfutation des détracteurs, mais nous disons que ces personnes-là doivent se corriger tout en faisant perdurer la réfutation des détracteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur l'ordre d'Allah. Ne leur nuira pas ceux qui les trahissent, ni ceux qui s'opposent à eux. Cela jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et ils demeureront ainsi. » Donc le bon cheminement est de corriger ses défauts. Il faut observer où est le défaut. Est-ce que celui-ci dépend des sentiments et les affections personnelles? Si ça dépend de cela, nous le corrigeons. Est-ce que celui-ci est l'empressement? Nous le corrigeons. Est-ce que c'est le fait de s'avancer, de se mettre en avant, alors que nous n'avons pas forcément les compétences? Nous le corrigeons. Est-ce que c'est l'ignorance? Des gens qui réfutent les détracteurs avec ignorance, avec un manque de science, sans analyser la solution à ce conflit. Nous gardons cela à l'esprit et nous le corrigeons. Mais le fait de dire ou de le déserter totalement, quel en serait le résultat? Le résultat, ça sera que des gens tels qu'Abul Hassan al-Ma'ribi, Ali Hassan al-Halabi, Ibrahim al-Ruhayli et encore bien d'autres sont apparus. C'est ça le résultat. En se taisant sur ces gens, nous voyons que des têtes de l'innovation jaillissent. Et qui s'est opposé à eux? Qui s'est opposé à leur prise de popularité et aux dépravations qu'ils ont propagées? Donc vous savez, oh mes frères, la critique et l'éloge sont les gardiens de la religion. La réfutation des détracteurs est le gardien de la religion, le gardien de la sunna, le gardien de la législation. Donc je répète encore une fois et je confirme que le cheminement n'est pas celui suivi par certains qui disent il faut se contenter d'expliquer les livres de science. Il faut étudier la science sans s'occuper des réfutations faites à l'encontre des détracteurs. Ceux qui vous disent « Non, moi je vais étudier le tawhid. » Va étudier, c'est pas ça qui va être. C'est pas ces questions qui vont être posées dans la tombe. Ou encore, toutes ces paroles fallacieuses que nous entendons. lorsqu'ils nous disent ceci ne fait pas partie de la science. Comment ça, ça ne fait pas partie de la science? Tout le temps, nous les entendons dire, étudie la science, comme si la réfutation à l'encontre des détracteurs ne faisait pas partie de la science. Taïb, ces gens-là, on leur répond très bien. Nous allons expliquer les livres de science, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Et c'est ainsi qu'est le cheminement des gens de science. Mais ceci seul ne suffira pas à apporter des solutions au problème. Certes, il y a un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Ce n'est pas toute personne qui peut se charger de cela. Ce n'est pas toute personne qui va venir et qui va faire des réfutations aux détracteurs, qui va faire des mises en garde, qui va corriger des erreurs. Cela nécessite des compétences acquises à travers l'étude auprès des gens de science, avec la patience. Mais il ne faut pas en faire le grand. Et comme il ne faut pas en faire, c'est-à-dire la critique et l'éloge, il ne faut pas aussi en faire le grand fondement de l'islam. Comme malheureusement, on peut le comprendre de certains. Certains qui ne parlent que de ce sujet. Et quand vous leur posez des questions sur son Seigneur, il est incapable de répondre. Comme si en réalité, sa préoccupation majeure est la critique et l'éloge. Toute la journée, il ne fait qu'étudier la critique et l'éloge, la critique et l'éloge sur un tel individu, sur un tel, sans jamais étudier sa noble religion. Donc certes, c'est une base des fondements de l'islam, mais ce n'est pas le grand fondement de l'islam. Comme ceci aussi, nous l'expliquerons en détail dans une autre intervention, inshallah ta'ala. Mais il y a une différence entre dire que la réfutation à l'encontre des détracteurs est un des fondements de l'islam et le fait de dire que c'est le plus grand fondement de l'islam et le pilier sur lequel l'islam repose, ou encore que ceci est la règle majeure. Donc il n'est pas permis de s'occuper de la réfutation à l'encontre des détracteurs au détriment de ce qui est plus important et obligatoire que cela, tel que l'apprentissage du dogme, l'aqida, de la méthodologie, l'manhaj, de la jurisprudence, l'fiqh, et autres parmi les sciences religieuses. Il n'y a aucune polémique et aucun doute à ce sujet. Il n'est permis à aucun étudiant en sciences d'en faire son occupation primordiale, de savoir si un tel est sunni, ou un tel est un innovateur, qu'un tel a dit ceci, ou un tel a fait cela. Qui es-tu pour faire cela? Cette personne qui s'y adonne toute la journée. Qui es-tu pour faire cela? Ce sont les savants qui se chargent de ça. Laisse cette affaire aux savants. Alors lorsque l'on dit qu'il ne faut pas fermer le sujet de la critique et l'éloge complètement, nous ne voulons pas dire non plus que tout le monde peut s'en charger et que tout le monde peut parler dans ce sujet, même les jeunes ne connaissant pas le sens de l'attestation de foi et les fondements de la croyance et la méthodologie. Non, personne de sensé ne va dire cela. Mais en même temps, il n'est pas permis de généraliser et de faire fuir ce sujet aux étudiants en sciences et de leur dire étudier les explications de livres seulement, sans lire les réfutations. Non, ceci est une erreur et ça ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que je souhaitais expliquer ici, que ce cheminement n'est pas approprié. Bien au contraire, il mène à laisser l'ignorance dominer, à ouvrir la porte à chacun et laisser les musulmans prendre leur religion de n'importe qui. Alors que nos salafs ont dit, cette science est une religion. Regardez de qui vous la prenez. Comment allons-nous concrétiser cette parole si ce n'est en inspectant l'état des personnes et en questionnant pour savoir de qui nous pouvons apprendre notre religion et de qui nous ne pouvons pas l'apprendre, qui est aussi un sujet que nous développerons, inshallah ta'ala, à travers d'autres assises, de qui nous pouvons prendre la science, de qui nous ne pouvons pas prendre la science, inshallah ta'ala. Ou de savoir encore si cette personne de qui nous voulons prendre La science est sur la rectitude, ou alors elle est sur l'égarement. Et dans le cas où celle-ci aurait des déviances, ces déviances, il faudrait les éclaircir et les réfuter avec argumentation. Donc une personne qui déserte ce sujet, car ce n'est pas quelque chose qu'il suit, parce que ces choses nécessitent du temps et des efforts et du dévouement. Surtout, les problèmes contemporains. Ils nécessitent encore plus de temps, d'observation et de dévouement et d'efforts que l'étude de la critique et l'éloge concernant les chaînes de transmission dans les hadiths. Car les savants ont déjà fait le travail pour nous dans ces sciences-là. Concernant les chaînes de transmission. Il nous suffit de lire, d'étudier, après avoir étudié les règles concernant cette science, de lire leurs paroles, et pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la compréhension de cette science et la maîtrise, il va en ressortir des jugements. Mais actuellement, c'est encore plus compliqué. Pour pouvoir analyser la situation des individus et traiter leur sujet, c'est encore plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Allons-nous lui dire de traiter ce sujet avec ignorance? Ça, c'est impossible. Voilà pourquoi, comme je vous disais précédemment, il y a certains savants, des fois, qui ne se prononcent pas sur certains individus. Car ils manquent des fois de temps. Des fois, ils n'ont pas de temps à consacrer à ce sujet-là. Ils ont des choses plus importantes. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argumentation nécessaire. Donc, ils ne veulent pas faire de l'injustice envers autrui. Ils ne se prononcent pas sur cette personne tant qu'ils n'ont pas tous les paramètres, les tenants et les aboutissants. Mais d'autres, qui les ont et qui ont le temps, ils vont s'y adonner. Est-ce qu'on va dire alors, parce que telle personne ne s'est pas prononcée, comme certains le disent, non, non, moi je continue de prendre de lui parce que ce savant-là ne s'est pas prononcé. C'est faux. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'argumentation. Et ça aussi, c'est une ambiguïté que nous développerons, bi'idhnillahi ta'ala, dans une autre allocution. Je reviens sur le sujet. Donc, si une personne déserte à cause de cela, elle déserte le sujet parce qu'elle a un manque de science, parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle ne peut pas fournir les efforts et le dévouement nécessaires à ce sujet, est-ce que celle-là, on va la blâmer? Cette personne-là, elle ne peut être blâmée. Tant qu'il s'accroche aux paroles des savants et qu'il renvoie vers les gens spécialisés dans ce domaine. Elle est là la nuance. C'est que cette personne-là, elle ne rejette pas le sujet. Et elle ne cherche pas à le fuir en disant « Apprenez la science, expliquez les livres de science. » Non. Celle-là, elle ne s'y adonne pas parce qu'elle manque de temps. Parce qu'elle ne peut pas fournir les efforts et le dévouement nécessaires. Mais, malgré cela, elle oriente vers les gens spécialisés dans ce domaine. Et elle reste accrochée fermement aux paroles des gens de science dans ce sujet. Donc celle-là, elle ne peut être blâmée comme la première, comme la précédente. Cette personne-là, elle ne contredit pas quand la preuve est clairement avec eux. Car il n'est permis à personne d'aller à l'encontre des preuves, quel qu'il soit, peu importe le savant, la personne. Si les preuves sont authentiques, il n'est alors permis à personne de s'en détourner. Et là, il faut bien différencier entre les deux sujets, oh mes frères. C'est ce que je souhaitais éclaircir dans cette assise. Le cheminement que j'ai mentionné précédemment et qui est emprunté par certains et choisi comme remède ou solution n'est en réalité pas valide. Et l'autre partie que j'ai mentionnée après celle-là, lorsqu'une personne déserte ce sujet car elle n'a pas les qualifications pour, elle ne s'y consacre pas ou alors elle ne suit pas ce sujet, ce n'est aucunement mal Et ce n'est pas une erreur, comme malheureusement certains veulent le faire croire sur les réseaux sociaux. Ils essaient de blâmer ceux qui ne peuvent pas s'adonner à cette science parce qu'ils ont un manque de connaissances. Depuis quand allons-nous imposer à une personne qui manque de science de suivre un avis? Ça reviendrait à légitimer le suivi aveugle, qui est interdit d'après le consensus des savants. Vous voyez la nuance sur laquelle je souhaitais attirer les attentions. Il faut faire attention à ces propos fallacieux que certains utilisent sous forme de règles, prétendant que ceci est la vérité. Ou encore que c'est le cheminement de nos savants. Bien au contraire, ceci n'est en rien le cheminement de nos savants et en rien la voie du manhaj salafi. Au contraire, comme je vous disais, le fait de blâmer cette personne, c'est l'essence même de l'ignorance du manhaj salafi et de la méthodologie de nos savants. Car cette personne, elle est dans l'exactitude et dans la vérité. Elle ne peut être réprimandée. Donc il ne faut pas réprimander les étudiants en sciences ou encore les prédicateurs, ceux qui appellent à Allah, ou encore même les chouyours ou autres qui n'accordent pas de temps à ce sujet. Il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a une différence entre celui qui déserte ce sujet car il le refuse, il met en garde contre lui ou autre, et entre celui qui déserte ce sujet parce qu'il n'est pas spécialisé dans le domaine, parce qu'il ne le maîtrise pas. Cette personne-là, elle ne peut nullement être blâmée. Au contraire, elle est remerciée, car cette personne se limite à ce qu'elle peut faire. Et comme dit le proverbe, miséricorde à la personne qui connaît ses limites et s'y tient. Il n'est pas permis de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance ou sans en avoir les compétences. Que dire alors de ce sujet immense et dangereux qui est en rapport avec l'honneur des gens et le fait de parler sur eux? Et pour ma part, ce n'est pas les étudiants en sciences qui peuvent parler indépendamment dans ce sujet. De même que ce n'est pas auprès de ces personnes qu'il faut revenir initialement, surtout dans ce genre de choses qui fait partie de la critique et l'éloge, et plus particulièrement dans ce genre de troubles et problèmes entre les salafis, entre les gens de la sunna, dans lesquels un tel a dit et l'autre a dit, un tel est en train d'être conseillé ou n'est pas en train d'être conseillé, qu'il y ait une divergence ou qu'il n'y en ait pas. Il est impératif de savoir qu'il n'appartient pas de s'exprimer dans ces situations. Le mieux qu'ils peuvent faire dans ces sujets, c'est de parler de ceux sur lesquels les savants se sont déjà prononcés, ou alors sur ceux de qui l'état est clair. Par exemple, s'il apparaît clairement qu'un tel est un innovateur, un qutbi, un khariji, un sururi, cela sans aucune équivoque. Alors, comme les savants tels que Cheikh Rabi' Hafidhallahu Ta'ala l'ont dit, lorsque l'innovation est claire ou alors que l'état de la personne ne nécessite pas que ce soit un savant qui s'exprime, quiconque le connaissant peut parler sur lui. Donc si un étudiant en sciences connaît l'état d'une personne, que celui-ci est un qutbi, un hizbi, un ikhwani, un takfiri ou autre, il connaît sa situation parfaitement. De plus, il fait partie des gens de son pays. Alors, il est légitime pour lui de parler et d'éclaircir. Et ça ne nécessite pas d'être fait par un savant. Par contre, seul le savant peut s'exprimer. Et le sujet de la critique et l'éloge dans ce point est restreint à lui lorsque ce sont des troubles et des problèmes dans des sujets complexes, nécessitant des éclaircissements, des explications, une réfutation détaillée et autres. Pareil pour le sujet de l'indépendance. C'est-à-dire comme les imams de la critique et l'éloge, lorsque Ahmed, ou encore l'imam Ibn Ma'in, ou Abu Zur'a, ou Abu Hatim, et autres, de leur rang, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils ont parlé dans les livres de critique et d'éloge, leurs propos dans le sujet de la critique et l'éloge, on les nomme comme des propos indépendants, c'est-à-dire ils ont fait des efforts. Ça se limite justement, cette indépendance, au savant uniquement. C'est-à-dire que le savant est indépendant initialement et les gens retournent à lui pour le questionner dans ce sujet et c'est lui qui fait résulter les jugements. Ceci aussi, comme je vous l'ai dit, ne peut être fait que par les savants. Il n'est pas correct que des étudiants en sciences ou des petits se mettent en avant dans cela. Seuls les savants peuvent parler dans ce sujet. Et ce sujet est restreint à eux. Exactement comme nous disons dans le sujet des sinistres, que seuls les savants peuvent émettre des avis. Il n'est pas autorisé aux étudiants en sciences d'émettre des avis dans les sinistres. C'est des choses, ou du moins ces choses-là, ne peuvent être perçues que par les savants. Et ça, il faut le savoir impérativement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des étudiants en sciences ou des gens illégitimes se prononcer sur les sinistres, sur les sujets de sang, sur les sujets de licité et d'illicité de mariage et de divorce. Donc moi, je parle pour moi. Par Allah, une personne de mon rang, lorsqu'elle est questionnée sur des gens dont je sais que le cas est clair, que ce soit des Qutbi, des Tekfiri, des Hizbi ou des gens sur qui les savants se sont exprimés clairement sur leur cas, alors il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala, à dire ce que nous connaissons des paroles des savants. Mais dans ces situations contemporaines, comme je vous l'ai expliqué, je parle en ma personne. Je suis les savants et ne vais pas à l'encontre de leurs paroles. Donc celui dont la critique a été établie avec argumentation claire et celui où cela, peu importe, qui le recommande. Si l'argumentation elle est claire, peu importe le nombre de recommandations qu'il va avancer ou peu importe le nom des personnes qui vont le recommander, la critique détaillée primera sur cette recommandation. À partir du moment où cela remplit toutes les conditions qui sont expliquées et que nous pourrons énumérer au fur et à mesure de cette série dans la critique et l'éloge. Donc mes frères, celui qui est critiqué, il reste critiqué. Un innovateur, ça reste un innovateur. Et cela, peu importe qui va le recommander. Aujourd'hui, on ne cesse de voir les jeunes poser des questions sur un tel et un tel, parce que tel savant a mis en garde contre lui et un tel n'a pas mis en garde contre lui et continue d'en faire les éloges. Nous observons les règles de ce manhaj béni, à savoir que la critique détaillée prime sur la recommandation. Il y a des règles dans ce sujet assez complexes et nécessitant une étude que, bi'idhnillahi ta'ala, nous essayerons de simplifier et aborder à travers des allocutions, bi'idhnillahi ta'ala, futures. Mais, comme je vous disais, ce que nous observons et prenons en considération ne sont nullement les personnes, ou les noms, ou le rang. D'ailleurs, c'est de la sorte que nous agissons avec les grands érudits de la critique et l'éloge. Par exemple, si nous avons une personne qui a été qualifiée comme étant digne de confiance, thiqa, par des imams tels que l'imam Ahmed, Al-Bukhari ou Ibn Ma'in, et tous ces immenses érudits, mais qu'après cela, nous voyons que un autre savant l'a critiqué avec détail et argumentation, que ce soit Abu Zur'a, que ce soit Abu Hatim ou autre. Par Allah, jamais nous n'allons suivre l'imam Ahmed ou encore Al-Bukhari ou alors Ibn Ma'in dans cet éloge et cette recommandation. Car la critique détaillée des autres savants prime sur cet éloge. C'est exactement pareil avec les savants contemporains, hafidhahumullah ta'ala. Si une critique détaillée, claire, explicite est faite, alors elle est acceptée, est mise en application et elle est imposée. Et cela, peu importe qui la contredit, c'est la règle à laquelle nous nous comprenons, c'est la règle à laquelle nous nous cramponnons tous fermement dans ce manhaj béni. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous sa mise en pratique et de nous accorder la fermeté sur ce qu'il aime et agrée. Et qu'Allah couvre d'éloge notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. Et leur accorde le salut. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.